Terrorist networks, terrorist states.
Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 88, 8e épisode de cette saison 8, que de 8 dans cette émission. Divergence numérique est votre émission sur le libre, les logiciels libres. Une émission que vous retrouvez sur les ondes de Divergence FM 93.9 sur Montpellier alentour. Et sur Radio Escapade 103.3, 104.1, ainsi que sur Internet, bien sûr, divergence-fm.org. Merci à vous qui nous écoutez à travers les ondes et les paquets de l'Internet. Une divergence numérique dont le thème principal sera évidemment le libre, mais le libre, ses origines, sa philosophie, la naissance du GNU, cet animal. Et on parlera donc en deuxième partie de l'install party du 4 décembre 2010 à la médiathèque Émile Zola. On retrouve évidemment les nouvelles du front avec la revue de presse de l'April. Merci à donc l'équipe d'Emmanuel Charpentier et Luc Fievier. Et puis en fil musical, ce sera évidemment pour cette émission sur le libre, la Free Software Song, donc la chanson du logiciel libre et ses différentes déclinaisons. Mais tout de suite, ce sont les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Nouvelles du front avec donc la revue de presse de l'April de cette semaine 46.
Revue de presse de l'April, semaine 46 de l'année 2010. Donc aujourd'hui avec la voix cassée, hein, pour un peu plus de difficultés. Donc le sommaire, donc premier point, on parle de nous. Ensuite, plus blanc que blanc, hein, ça parle pas de lessive. Bonne nouvelle, les Indiens seront bientôt interopérables. Plutôt mauvaise nouvelle, donc la Vanclier est partie pour durer. On va vous parler d'un triangle amoureux maudit, c'est super chaud. Et ensuite, pour commencer, un petit coucou au gourou. C'est un article de IT Mag qui s'appelle « Moi, je vais lutter et vous ». Donc, article Samir Tazahirt, donc qui parle par le gourou donc, de Richard Stallman, donc, qui est le père du logiciel libre.
Oui, alors on dit RMS, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et en l'occurrence, c'est un entretien inédit qui parle de son histoire, de son passé, passé à court terme, passé à long terme. C'était un programmeur, ce RMS, mais aujourd'hui, bah, il ne fait plus d'informatique dans le sens il ne code plus. Aujourd'hui, il travaille à répandre les idées, faire des conférences, des articles, des choses de ce type-là. Et il explique aussi dans cet article comment il a fait le choix de l'architecture du noyau qui à l'origine était fait pour le système GNU, et que bah il s'est planté, hein, tout simplement. Il a fait un choix trop avancé, trop révolutionnaire, et aujourd'hui...
Donc le noyau qu'il avait, le projet qu'il avait, c'était le EARD, c'est bien ça, et c'est Linux qui s'est imposé, parce que de toute façon, il n'existait rien d'autre.
Et oui, et donc là, c'est un petit peu, ça lui fait mal au cœur, parce que tout simplement, au niveau reconnaissance, aujourd'hui, on parle beaucoup de Linux, et il essaye notamment de remettre un petit peu le GNU sur le devant de la scène en parlant de GNU Linux. Mais c'est pas toujours simple. Bon, on lui fera gré, en tout cas, d'avoir monté le mouvement GNU, et à ce nom-là, d'utiliser le mot GNU Linux quand on parle de ces distributions, c'est un petit peu plus sympathique.
Alors, il fait un peu son mec loupa en disant que EARD était trop compliqué, trop novateur et que c'était un peu trop ambitieux, en tout cas pas adapté à un projet communautaire et un développement. Voilà. Donc il parle également de logiciel libre, liberté, etc., en faisant la différence entre libre et open source et en revenant bien souvent sur la question du libre et du gratuit. Stallman donc, aime beaucoup le terme libre en français dans le texte, parce qu'en anglais, évidemment, free, c'est ambigu. Et voilà, donc il revient là-dessus. Stallman a fait des conférences qui sont très intéressantes pour les gens qui découvrent le libre. Donc il était en France ces derniers temps, il reviendra probablement bientôt, il vient quand même assez souvent. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir, que vous intéressez au libre, ou que vous avez des personnes que vous voulez sensibiliser, c'est toujours une très bonne façon de les sensibiliser, d'amener voir Stallman. Ça peut être le gourou, c'est un très bon point d'entrée.
Et bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un gourou, effectivement, c'est un gourou barbu, qui n'a pas forcément des bonnes manières, mais qui attire du monde autour de lui, et ses conférences sont blindées. Donc si vous en entendez parler, essayez d'y aller, c'est vraiment intéressant, il parle très très bien.
Alors maintenant, c'est le moment chaud de la revue de presse, c'est le triangle amoureux maudit. Donc Manu, parle-nous de ça.
Alors c'est sur le site itespresso.fr. Alors, en l'occurrence, c'est Projet Migo, AMD accepte de cohabiter avec Intel, un article de la rédaction, qui explique, alors le triangle amoureux, c'est entre AMD, Intel et Nokia. Alors c'est trois géants qui sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse sur tout ce qui est embarqué, sur tout ce qui est les microprocesseurs ARM. ARM, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, mais c'est essentiellement pour les téléphones, c'est pour l'embarquer. Et bien eux, AMD et Intel, eux, ils font des microprocesseurs pour ordinateurs qui sont très bien, mais pas appropriés. Et en l'occurrence, ils sont vraiment à la ramasse et ils essayent de remonter un petit peu sur le cheval avec Nokia qui lui-même, c'était le dominant des téléphones portables et il est en train de perdre son trône, clairement, face à Android en l'occurrence. Et donc, ils font eux aussi une distribution libre. Cette distribution libre, elle a l'air pas mal du tout. Elle est destinée aux téléphones portables. C'est juste que vraisemblablement, ils sont en retard par rapport à Android, qui lui vole la vedette à tout le monde et qui fait envie.
Voilà, donc ça va être difficile de remonter la pente, mais espérons que ça marche. Ça sera d'autant plus intéressant. Donc sujet suivant, donc la vente liée est partie pour durer. Donc un article de PC Impact, avenir incertain pour la prohibition de la vente liée PC et OS par Marc Ries. Donc c'est une décision de justice qui a été prise, donc ça remonte, c'est la conséquence de toute une série de décisions de justice qui ont été faites, donc suite à une attaque contre la vente liée. Donc la vente liée, Manu, si tu peux nous rappeler ce que c'est.
Oui, parce qu'il faut toujours redonner un petit peu les bases. La vente liée, c'est le fait que quand vous allez acheter un ordinateur, que ce soit dans le commerce, à Leclerc ou par correspondance sur Internet, vraisemblablement, vous allez l'avoir tout de suite avec un Windows installé dessus de base. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ça constitue bien 100 € du prix et que c'est très difficile de se faire rembourser, alors que pourtant, à chaque fois que vous installez cet ordinateur, vous le lancez, il vous demande d'accepter sa licence, il vous dit si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez toujours retourner le logiciel et vous faire rembourser. Eh bien non, c'est pas toujours le cas et c'est même très très difficile. Donc il y a un groupe à l'April qui est en charge de ça. Mais là, en l'occurrence, très mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un juge qui était en désaccord avec ça, un juge de proximité. Alors là-dessus, c'est remonté en cour d'appel. Il y a eu une décision aussi, il se trouve, de la Cour de justice de l'Union européenne et finalement de la Cour de cassation. Alors Luc ?
Donc après, on compte ce que la Cour de justice européenne de l'Union européenne a décidé et qui dit qu'en gros, il faut dorénavant démontrer que la vente d'un PC accompagné d'un OS est une pratique commerciale déloyale. Donc en gros, on peut pas, le sens de la décision, c'est qu'on ne peut pas interdire la vente liée par principe, mais démontrer qu'effectivement, cette vente liée est déloyale. Donc ça ferme pas la porte au combat, par contre ça limite la question et ça ferme des portes.
Alors l'article suivant sur les Indiens bientôt interopérables, donc un petit article sur linuxfr.org, donc l'Inde en l'occurrence se dote d'un RGI. Alors le RGI c'est quoi ?
Alors déjà c'est un article par Pierre Jarillon, et donc RGI c'est le référentiel général d'interopérabilité. Donc c'est un mot qui peut paraître un peu barbare, mais en gros, ce sont des règles qu'on va se donner pour avoir des systèmes, des fichiers et des systèmes qui sont interopérables, c'est-à-dire qui peuvent communiquer les uns avec les autres. Donc c'est des choses qu'on a fait en Europe.
Alors en l'occurrence, ce que tu oublies de dire, il me semble, c'est que c'est surtout pour les administrations, les gouvernements, les États. Et donc effectivement, ils essayent de se donner une ligne conductrice et de dire, voilà, on va plutôt favoriser tel logiciel, plutôt favoriser tel standard. Et en France, on a merdé, non ?
En tout cas, c'est ce que dit l'article, en disant qu'on s'est fixé sur des formats de fichiers, qu'il y a eu quelques... Alors, je sais plus si c'est dans l'article, mais qu'il y a eu quelques manœuvres qui ont été faites, notamment par rapport à l'adoption de l'Open Document Format, qui a été un petit peu, comment dire, mise de côté en attendant que le format bâtard de Microsoft soit normalisé par l'ISO, sachant que ce format n'a jamais été implémenté dans les documents, enfin dans les formats de documents de Microsoft, mais qu'en tout cas, dans le RGI, on dit oh, bon, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, donc on est dans le flux plus complet. L'Inde a choisi une option complètement différente.
Et oui, en l'occurrence, ils vont lister, et ils listent les logiciels qui sont recommandés pour les administrations, ce qui va leur permettre d'assurer une plus grande pérennité, et notamment de faire travailler les industries locales, les entreprises locales. C'est bien sympathique pour eux, et ça va leur faire du bien. faut espérer qu'on va suivre. Il me semble que c'est la Norvège qui a aussi un RGI et que l'Angleterre a un équivalent. Donc la France, on a un RGI. On sait juste qu'il ne sert pas à grand-chose dans son état actuel. C'est un petit peu dommage.
C'est même très dommage. Donc plus blanc que blanc. Alors pourquoi ? C'est la saison, c'est pas qu'il neige, c'est la saison des livres blancs.
Oui, alors c'est sur le site Web Times Media, livre blanc open source. C'est Télécom Valais rend sa copie le 2 décembre, un article de Jean-Pierre Largillet, ou Largillet peut-être. C'est un livre blanc sur l'open source, le logiciel libre, les choses de ce type-là, qui est fait par le SICA de Sofia Antipolis. Le SICA, Télécom Valais, ce sont des regroupements d'entreprises, en l'occurrence Texas Instruments, IBM, France Télécom, AT&T, ETSI, Digital Equipement Aérospatial.
Encore une petite série de petites PME, ouais.
Tout à fait, que des petites PME, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui sont à Sofia Antipolis, un endroit bien agréable, qui réfléchissent, et en l'occurrence, ils réfléchissent à comment utiliser le logiciel libre, même s'ils l'appellent open source, hein, tant pis, et ils vont le présenter, ils vont présenter leurs résultats à l'April. Donc on attend avec impatience de voir ce qui en ressort. Par ailleurs, il y a un autre livre blanc qui sort aussi, le nouveau livre blanc de Smile. Vous pouvez aller voir sur le site Artesi qui parle aussi de logiciels libres et qui présente les manières d'utiliser le logiciel libre.
Donc Smile est un intégrateur de logiciels libres, on en avait parlé je crois la semaine dernière.
Alors en l'occurrence, pour terminer cette revue de presse, c'était la semaine de l'April la semaine dernière, hein, vraisemblablement. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties suite à des choses qu'on a fait dans l'association. Alors la première, directement liée au changement de gouvernement. Changement. En tout cas, aux modifications qui ont été apportées dans le gouvernement, c'est un article du nouvelops.com. Interview, Sarkozy et Fillon ont décidé de dissoudre le numérique. Interview de Boris Manenti, et c'est une interview du délégué général de l'April, et qui revient sur la suppression du secrétariat à l'économie numérique, et en l'occurrence qui est considéré par nous comme une régression qui est voulue par des gens qui n'ont rien compris au numérique et qui risquent de le payer en 2012.
Donc c'est Frédéric Couchet, hein, donc le délégué général de l'April. Et en fait, il s'avère que toute cette question du numérique est intégrée maintenant à l'équivalent du ministère de l'économie. Enfin, les noms sont à rallonge, donc on a un peu de mal à suivre. Mais qui n'est donc vu plus que sous la question de l'entreprise, de l'économie. Et tous les autres aspects du numérique sont complètement gommés. Voilà, et après ça, on pourrait tout à fait avoir une approche économique du logiciel libre, mais on craint que ce ne soit pas tout à fait cet angle d'approche qui soit choisi.
Alors, cette discussion a été reprise sur it1manager.com. Quelle place pour le numérique avec le retour d'Éric Besson ? Et sur Numérama, l'April demande à Éric Besson de ne pas réduire le numérique à l'économique. Donc, exactement ce que tu disais. Le numérique, c'est autre chose. C'est quelque chose qui recouvre du culturel, de l'éducatif et de l'économique, bien sûr. Mais beaucoup
de... Et de la liberté d'expression.
Et de la liberté d'expression, clairement, il y a de ça. Alors ensuite, toujours sur l'April, hein, et il se trouve qu'on a été repris, la Ligue de l'enseignement a repris la campagne d'éducation de l'April. En l'occurrence, c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher sur le net, il y a un poster qui est sorti, qui a été fait par un des groupes de travail, et qui met en avant les logiciels libres à partager sans compter, notamment et surtout dans l'éducation.
Donc c'est une affiche qui s'adresse au milieu éducatif, donc évidemment sous licence libre elle-même, que vous pouvez télécharger, imprimer, etc. Donc si vous êtes dans l'enseignement ou que vous avez des connaissances à vous qui sont dans l'enseignement, n'hésitez pas à sortir cette affiche et à la mettre partout.
Ça ne peut pas faire de mal. Et pour finir, toute une pléthore de reprises du travail que fait l'April sur les marchés publics. Alors, en l'occurrence, il y a des articles sur other.eu, un article en anglais en l'occurrence, FR, alors Advocacy Groups Campaigning Against Discriminatory IT Procurements, de Guige Hélénius. Il est déjà passé dans la revue de presse, on avait déjà eu du mal.
À tes souhaits.
N'est-ce pas ? Et donc, c'est un article, bon, certes en anglais, qui reprend le fait que l'April attaque les gens qui font des appels d'offres, hein, sur les marchés publics, mais des appels d'offres illégaux. En l'occurrence, un appel d'offres illégal, c'est un appel d'offres qui indique de base quel est le fournisseur ou la solution qui doit être apportée. Et donc, ils refusent de fait l'usage de beaucoup de choses, comme notamment les logiciels libres.
Voilà, c'est une des multiples façons de faire un appel d'offres illégal. Et là, l'idée, voilà, c'est aussi de choisir, ou en tout cas de préciser dans l'appel d'offres qu'on va faire nécessairement appel à un logiciel propriétaire, soit en le nommant directement, soit en prenant des décisions sur les solutions possibles. Donc, ça a été repris, on ne va pas revenir à chaque fois dans le détail, mais sur actualité.com. Ça, c'est pour la partie DRM, parce qu'il y a également eu la publication d'une synthèse sur les DRM, Jeanne Tadeus, donc quelque chose d'assez intéressant. Ça permet de faire le point sur le sujet. Pour tout ce qui est appel d'offres illégaux, donc cio-online.com, 01net.com également, itexpresso.fr, PC Impact et itmanager.com et Artesi. Donc voilà, un chantier qui a été commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en tout cas, ça démarre bien et c'est repris dans la presse. Donc c'est un bon départ.
J'espère que quelques personnes à Marseille, par exemple, vont en entendre parler et vont peut-être accepter de discuter avec l'April. Ça ne pourra pas faire de mal.
Très bien. Eh bien, merci Manu. À la semaine prochaine.
Merci bien. À la semaine prochaine.
Merci à Luc Fievier et Emmanuel Charpentier de l'April, april.org, une association qui fait la promotion et la défense du logiciel libre. Une revue de presse que vous retrouvez sur leur site april.org et puis sur dogmazic.net April. On va s'accorder une petite pause musicale dans cette divergence numérique, une émission consacrée au logiciel libre, au libre ce soir, avec évidemment la chanson du logiciel libre, une chanson écrite en anglais par Richard Stallman pour faire la promotion des logiciels libres, une mélodie qui est empruntée à une chanson bulgare intitulée Sadi Mona. Stallman qui raconte l'avoir écrite pendant une convention de science-fiction, mais oui, lors d'une session de Filk Music, alors qu'il attendait son tour pour chanter. Une chanson est utilisée non seulement par les supporters de Stallman comme un hymne donc lors des interventions dans des conférences, mais aussi par ses détracteurs comme une démonstration de leur critique, comme une preuve de pourquoi la coopération avec Stallman est-elle impossible ? Alors des paroles qui opposent les hordeurs, ceux qui amassent de l'argent supposé néfaste et égoïste, aux hackers présentés sous un jour favorable et invités à rejoindre le mouvement du libre pour partager le logiciel et se débarrasser des licences propriétaires. Des paroles qui sont donc distribuées avec une notice de copyright indiquant la date de 1993 et autorisant leur diffusion à condition qu'elles ne soient pas modifiées, donc verbatim, et que la notice soit préservée. Des paroles qui disent dans la traduction, puisque ça a été traduit dans différentes langues, donc rejoins-nous. Partage le logiciel, libère-toi hacker, libère-toi, rejoins-nous, partage le logiciel. En tout cas, vous pouvez la retrouver sur gnu.org et donc on s'écoute la version originale chantée par Richard Matthew Stallman.
Un rythme de 7 compases. Entonces, si les parece un poco confuso, no es un error. Por ejemplo, es este ritmo. Join us now and share the software. You'll be free hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money. That is true, hackers, that is true. But they cannot help their neighbors. That's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers, at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers, evermore. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free.
join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free.
Richard Stallman à l'université du Pérou à Lima, donc qui lors de ses conférences n'hésite pas à chanter, à taper sur son laptop pour faire la rythmique de cet hymne sur le logiciel libre. Les avares, amassent beaucoup d'argent, c'est exact, hackers, c'est exact, mais ils n'aident pas leurs prochains, c'est très mal hackers, c'est très mal. Quand nous aurons assez de programmes libres pour nous, hackers libres pour nous, ces licences néfastes, nous les jetterons pour toujours hacker, pour toujours rejoindre nous, partage le logiciel. Toujours dans Divergence Numérique 93.9, Divergence FM, Radio Escapade 103.3, 104.1. Et nous abordons justement cette origine du libre. Comment ça a commencé? Quelle est la philosophie qui en découle derrière? Donc avec notre invité du jour, Pascal Chou, bonjour.
Bonjour.
Donc une philosophie du logiciel libre, puisque la Free Software Foundation a établi et maintient depuis, donc, février 1986 une définition du logiciel libre basée sur quatre libertés dont on va les rappeler. La liberté zéro, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. La liberté 1, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, ce qui suppose l'accès au code source. La liberté numéro 2, donc la troisième, si vous avez suivi, la liberté de redistribuer des copies, ce qui comprend la liberté de donner et de vendre des copies. La liberté 3, la liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations, ce qui suppose là encore l'accès au code source. Donc une philosophie qui remonte bien plus loin que les années 86, Pascal.
Absolument, bien plus loin que les années 86.
Il faut se rapprocher du micro quand on est à la radio. Oui, c'est la première fois, donc c'est normal. Hein. Tout le monde a bien commencé une première fois.
Oui, tout à fait. Bon, alors je suis d'origine chinoise. Mon père est chinois et ma mère est d'origine européenne. Donc je peux dire que je possède les deux cultures. Et je m'occupe aujourd'hui de nutrition à travers des livres qui sont édités et à travers un site que j'anime et qui propose des recettes de cuisine et des règles d'hygiène alimentaire. Je tiens ces connaissances de ma famille, de mes parents, et surtout des taoïstes.
Alors, c'est peut-être eux qui sont, peut-être, tu vas nous le préciser, à l'origine justement de cette liberté au sens large du terme.
Absolument. Alors, qu'est-ce que le taoïsme ? Le taoïsme est une cosmogonie. Ce n'est pas une religion comme on essaie de la présenter. C'est une cosmogonie en ce sens que c'est un monde complet, qui comporte absolument tous les éléments d'une société, tous les éléments d'une vie. Elle comprend aussi bien les arts qui concernent la santé que l'architecture, que les sciences telles que l'astronomie, la cartographie, enfin tout ce qui a été découvert par les humains jusqu'au 19e siècle vient d'Asie et a été inventé ou découvert par les taoïstes.
D'accord. Et cette imprégnation, de cet état d'esprit dans nos contrées européennes, c'est fait de quelle manière ?
Eh bien, cela s'est transmis d'humain à humain, c'est-à-dire que ça n'a pas été imposé par des pouvoirs. Aujourd'hui, on voit très clairement tout ce qu'a amené ces sciences, on peut dire. Certains les appellent des proto-sciences, moi je dis des sciences, telles que l'art du toucher qui a amené tous les massages, ce qu'on appelle le massage, la médecine, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise, qui a amené l'acupuncture, moins les médicaments, ce sens que les médicaments sont tenus par des pouvoirs et il est difficile d'aller contre les laboratoires et contre tous ces gens-là. Mais enfin, les plantes, la phytothérapie chinoise existe. Le feng shui, qui est un art de disposer son environnement, sa maison pour connaître un meilleur mieux-être. Et l'alimentation, l'hygiène alimentaire dont je m'occupe aujourd'hui. Mais ce n'est pas que cela, ça a été aussi, heureusement ou malheureusement, le papier, les grandes découvertes, la poudre à canon, malheureusement, et toutes les inventions qui concernent la navigation, telles que le tube des tambots pour le bateau, la voilure multiple, la double coque. Il faut savoir que lorsque les Portugais sont arrivés en Asie sur des petits bateaux de 20 mètres de long, les Asiatiques, les gens de l'Empire du Milieu, avaient des bateaux de 70 ou 80 mètres de long qui embarquaient des milliers de personnes.
Et cette transmission de la connaissance s'est faite naturellement ou c'était plutôt quelque chose que l'on garde pour soi ou que l'on préfère diffuser et donc rejoindre un petit peu donc, cette idée de liberté au sens large?
C'est quelque chose qui a été diffusé, complètement diffusé. Je n'ai pas parlé des arts martiaux. Les arts martiaux, en fait, étaient faits pour que les humains se défendent des attaques ou des agressions pour être libres et indépendants. En fait, ce monde taoïste remonte bien avant l'apparition des premiers pouvoirs, de ce que j'appelle les potentats, qui sont apparus, en fait, relativement récemment. On peut dire il y a 6-7 000 ans, lorsque le métal est apparu. Lorsque le métal est apparu, certains qui se le sont appropriés ont pu dire aux autres, maintenant j'ai le métal, donc je suis le plus fort, il faut que tu m'obéisses. Auparavant, chacun avait sa pierre et pouvait se défendre avec sa pierre. Lorsque le métal est apparu, les potentats sont apparus. Mais le monde taoïste existait bien avant, bien avant. Et toutes les sciences ou proto-sciences dont j'ai commencé à parler existaient déjà. Et tout ce monde, toute cette cosmogonie qui était en place a permis à ces peuples de résister à ces pouvoirs, de résister et même de leur donner une forme différente que celle qui est apparue en Occident. La grande différence de forme, c'est que les systèmes asiatiques, on peut parler plus particulièrement du chinois, parce que c'est ce qu'on appelle les Chinois. Les Chinois ne s'appellent pas les Chinois, ce sont toujours les gens de l'Empire du Milieu, est un système qui est horizontal, qui est en balance, c'est-à-dire que les choses montent et redescendent. Alors qu'en Occident, c'est un système qui est beaucoup plus, on va dire, pyramidal. C'est basé sur la cité-État, où pour grossir, il faut aller conquérir le voisin. Le monde taoïste, qui au début a résisté, puis finalement s'est non pas laissé vaincre, mais a préféré lutter dans l'ombre, on les appelle d'ailleurs les premiers anarchistes, ont préféré rester derrière, ne pas apparaître, ou apparaître différemment, pour continuer à lutter en mettant en place de nouveaux systèmes. Pour exemple, ils ont mis fin à la féodalité, tout simplement en inventant l'arbalète, en la donnant à tout le monde. C'est-à-dire que le chef de guerre ne pouvait plus aller sur le champ de bataille en disant « allez vous faire tuer », il prenait un carreau, et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a presque 3000 ans maintenant, que la féodalité s'est arrêtée, grâce à l'arbalète découverte par les taoïstes.
Donc c'est ce parallèle-là avec logiciel libre, logiciel privateur, c'est-à-dire que vous n'avez que le droit de l'utiliser sous certaines conditions et c'est moi qui en détiens en fait le pouvoir de faire ce que je veux avec ce logiciel, celui qui le construit. Hein. C'est tout ce pendant entre justement, j'allais dire que les libristes sont des rebelles du monde privateur, évidemment, des anarchistes en soi, puisqu'ils vont à l'encontre des grandes directions de sociétés, d'édition de logiciels qui disent « mon logiciel, il est sous licence, vous pouvez l'utiliser de telle manière, mais vous n'avez pas le droit de regarder ou de vous l'approprier pour en faire autre chose ». Donc c'est un peu donc, ce mouvement-là qui inspire, ou qui a inspiré en tout cas ce mouvement, cette notion de libre.
Absolument. Et ce n'est pas parti uniquement sur un désir de liberté, c'est parti selon des fondements, des fondamentaux que tout le monde connaît, qui sont, pour ce qui concerne le taoïsme, le yin et le yang, qui est à la base de cette cosmogonie, à la base du système. Le yin et yang, ce n'est pas le bien et le mal. Ce sont deux éléments qui sont...
complémentaires.
Qui sont complémentaires, tout à fait. Et qui règlent une très grande partie de la nature. Ça, ce sont des observations naturelles.
Pour un équilibre.
Le taoïsme, ce sont des sciences naturelles. Alors, il y a donc le yin et le yang. Il y a aussi ce qu'on appelle les hexagrammes qui ont donné le livre qu'on appelle le Yiki, le livre des divinations, qui a été très étudié au cours de l'histoire humaine et plus particulièrement récemment par un monsieur qui s'appelle Leibniz. Et Leibniz est à l'origine de l'informatique. Donc, on peut dire que l'informatique tient ses origines du système taoïste ou du Viking.
Je te propose de faire une petite pause musicale avec justement un dérivé de cette de notre fil conducteur de cette émission qui est la chanson du logiciel libre, puisque donc il y a évidemment Richard Stallman qui l'a chanté une première fois, mais comme c'est sous licence GNU, il fallait s'en douter, GNU GPL d'ailleurs. Et ben certains se sont accaparés et puis on en fait des variantes, des reprises, d'autres utilisations, dont notamment Fester que l'on va écouter tout de suite sur Divergence Numérique. Et oui, c'était le groupe de rap Fenster qui nous interprétait donc cette chanson sur le logiciel libre Free Software Song. Donc on peut en trouver différentes variantes. Vous allez sur Wikipédia, un très bon moteur de recherche et surtout une très belle encyclopédie collaborative. Toujours sur Divergence Numérique 93.9, sur Divergence FM, Radio Escapade 103.3, 104.1. Et on parle donc dans cette Divergence Numérique de libre. Ça, c'est pas surprenant, mais on revient à nos fondamentaux. Donc avec un petit historique, évidemment, donc du libre. Alors Free Software, c'est plutôt logiciel libre et pas logiciel gratuit, puisque en anglais, on peut faire l'ambiguïté. En français, elle ne l'est pas. Donc, on peut parler des origines, comme on avait évoqué avec Pascal. Et pour reprendre donc l'apparition donc de ce mouvement libre, il faut quand même remonter donc à des temps anciens ou disons à l'origine de l'informatique, des opérateurs, des premiers ordinateurs produits donc en série. qui prirent l'habitude donc de former des groupes d'utilisateurs pour partager leur expérience. Donc on a eu Share et Common pour IBM, Decus pour DEC, Digital Equipment Corporation, etc. En effet, il n'y avait alors pas de ressources pour se former. Le web, Internet n'existait pas encore, hein, en dehors donc des formations dispensées par les fabricants. Des groupes qui étaient soutenus donc, par ces fabricants eux-mêmes et des modifications de logiciels étaient échangées. Donc à cette époque, c'était le matériel informatique qui était censé constituer la source de revenus, le logiciel n'étant qu'un moyen d'en faciliter la vente. L'accès au code source était normal car nul n'achetait un ordinateur sans disposer d'une équipe de programmeurs. Bien avant la création d'Unix et puis de GNU Linux, les milieux professionnels et universitaires s'échangeaient volontiers logiciels et codes sources et les constructeurs cédaient le leur pour rien jusqu'à ce que des lois antitrust leur interdisent afin donc de permettre l'exercice d'une concurrence dans ce domaine. En outre, jusqu'aux années 70, il n'était pas encore tout à fait clair que le droit d'auteur s'applique au logiciel. Par décision de justice, les constructeurs sont contraints de facturer séparément leur logiciel au début des années 70, bien que maintenant ils vous imposent le logiciel dans la machine. En 15 ans, l'avènement de la micro-informatique va généraliser ce modèle et donner un essor aux éditeurs de logiciels qui s'orientent vers la vente de licences d'utilisation, donc ce qu'on appelle le système privateur. Un exemple souvent cité pour illustrer ce tournant est une lettre ouverte de Bill Gates aux hobbyistes, leur enjoignant donc de cesser de copier illicitement les logiciels. Ce même Bill Gates, en obtenant qu'IBM lui laisse les droits du DOS, puis de Windows, et ne commercialise qu'une licence d'usage, deviendra donc en deux décennies plus tard l'homme le plus riche du monde, où il se vend un ordinateur personnel toutes les 10 secondes dans le monde, plus de 9 sur 10 étant prééquipés d'un système d'exploitation Microsoft. Donc les constructeurs ont parallèlement restreint l'accès au code source des programmes, car les modifications souvent effectuées par les équipes des clients rendent problématique le soutien technique à distance, donc la stratégie OCO, Object Code Only d'IBM, à partir du début des années 80. Il devient donc impossible, et dans certains cas interdit, d'étudier, de corriger ou d'améliorer les logiciels acquis. Non seulement l'utilisateur ne peut plus adapter le logiciel à ses souhaits, mais en cas de bug, il se retrouve dépendant du bon vouloir de l'éditeur du logiciel. Donc là, c'est le logiciel privateur, puisque l'éditeur du logiciel vous contraint juste à l'utiliser sous une licence, à l'acheter et aussi, vous ne pouvez pas ni le regarder, ni le modifier, ni le copier. Donc enfin, la copie, une opération naturelle pour un ordinateur, devient en règle générale interdite par défaut. Le droit d'auteur interdit la copie non explicitement autorisée. Donc un homme, Richard Stallman, alors chercheur donc au laboratoire d'intelligence artificielle du Massachusetts Institute of Technology, le MIT à Boston, ressent profondément ce changement lorsque les collègues avec qui il travaillait et échangeait des logiciels jusqu'ici sont engagés à leur tour pour produire des logiciels qu'ils ne pourront plus partager. Donc vous produisez un logiciel, mais en fait, après, vous ne pouvez plus en disposer. Donc, en 1983, il crée donc le projet GNU, qui a pour objectif de construire un système d'exploitation compatible avec Unix et dont la totalité des logiciels est librement partageable. Parallèlement aux travaux de développement engagés, Richard Stallman fonde la Free Software Foundation, FSF, afin de donner une assise solide à son projet. Richard Matthew Stallman, RMS, définit précisément la notion de logiciel libre. Il rédige la licence publique générale GNU, donc la GPL, qui utilise le droit d'auteur pour garantir la pérennité du droit au partage et donc interdire la possibilité qu'une évolution ne soit plus partageable. La version 3 de cette licence a été réalisée avec l'aide l'aide de Eben Moglen. Et c'est ainsi qu'il fixe un cadre juridique et encourage le développement du logiciel libre. Le but des logiciels libres est de permettre le partage complet de l'information, d'où la référence à la liberté. Donc je vous propose de faire une petite pause musicale, une petite respiration, toujours avec la Free Software Song, donc la chanson sur les logiciels libres. Et on va écouter la version de Flat Eric.
Free.
Et oui, vous êtes toujours sur Divergence Numérique, vous l'aurez compris avec ces petits bruits intergalactiques, informatico-libres, évidemment, avec la Free Software Song qui était interprétée par Flat Eric. Une très belle musique d'ailleurs, qui change un peu de la version originale, mais c'est ça aussi de s'accaparer en fait tout ce qui est en GNU GPL. Bien sûr qu'on peut partager des logiciels librement et qu'ils soient libres en même temps. Richard Stallman inclut également les logiciels sous copyleft dans les logiciels libres. L'invention du copyleft, que l'on peut traduire par gauche d'auteur, par opposition au droit d'auteur, jeu de mots en fait, car il est surtout question d'abandonner et de renoncer au droit, alors que le copyright voulait, après l'avènement de l'imprimerie, réserver à l'auteur original une œuvre tout droit de recopie mise en œuvre par la licence publique générale GNU, donc qui permet de résoudre deux exigences apparemment paradoxales: permettre le libre partage d'un logiciel tout en empêchant son intégration dans des produits non partageables. Les logiciels libres sous copyleft sont donc disponibles sous une licence qui inclut un nombre important de clauses visant donc à empêcher toute possibilité de rendre le logiciel moins libre en le redistribuant. Ainsi, la GPL exige, entre autres, que toute redistribution se fasse exactement sous les conditions de la GPL, tant pour le logiciel original que pour les modifications qui auraient été faites en garantissant l'accès au code source complet pendant plusieurs années. Donc, il y a beaucoup de violations, justement, de cette GPL, c'est-à-dire que des constructeurs récupèrent du code source, GNU Linux, des applicatifs aussi, BusyBox, qui est un shell très léger. Un shell, c'est un éditeur de commandes, un invite de commandes sur certaines plateformes. Donc, ils l'utilisent, puisqu'ils peuvent récupérer les sources, puisqu'elles sont sous GPL. Et quand ils les remettent en circulation ou en produit fini, ils ne disent pas du tout qu'ils utilisent donc ce logiciel, et donc ils violent ainsi la GPL. Il y a au sein de la Free Software Foundation une entité juridique qui se bat justement pour faire que la GPL soit respectée par ses constructeurs. Voilà, toujours sur Divergence Numérique, sur une émission consacrée au libre, entièrement au libre. Et puis on se retrouve maintenant avec Pascal Arnoux de Montpel Libre, puisqu'il va nous parler de l'install party du 4 décembre 2010. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Donc c'est encore une install party que nous organisons avec la communauté du libre de la région, quoi, de Montpellier.
En quoi consiste une install party d'ailleurs, puisque pour ceux qui nous écoutent, qui nous rejoignent sur ces différentes ondes, ça peut leur paraître un peu, non défini, ou qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est prise de connaissance avec les systèmes libres, notamment Linux.
GNU Linux.
Et aussi sensibilisation au logiciel libre. Donc les gens viennent avec leur ordinateur, ou s'ils n'en ont pas, ils peuvent regarder. Nous aurons des ordinateurs à disposition. Et c'est montrer comment installer une distribution Linux, par exemple. On peut simplement la regarder aussi. Et voilà.
Donc c'est découvrir les logiciels libres. Un autre système d'exploitation qu'on ne connaît pas forcément.
BSD, par exemple.
Oui, ou...
En libre.
En libre.
Ou en propriétaire.
Ah ben justement, par rapport à un système privateur ou
Un système
ou
privateur.
Imposé, par les vendeurs, d'ailleurs.
Par exemple, Windows.
Voilà.
Windows est un système propriétaire.
Complément, puisqu'on ne dispose pas du code source du système d'exploitation, qui est un logiciel. Qui est lancé après le démarrage de la machine.
Mais macOS également, même s'il y a une couche BSD derrière, macOS est quand même un système fermé.
Alors, il faut le savoir aussi. macOS 10.
Donc les trois systèmes qui sont bien connus, c'est Linux, Windows et macOS.
Alors, une install
bon, il y en a d'autres.
Une install partie, mais on installe quoi?
Eh ben, on installe un système d'exploitation, donc un concurrent direct de Microsoft ou d'Apple. Et on peut installer ça sur sa machine. Et voilà. Bon, c'est des distributions. On va montrer des distributions telles que Ubuntu et Mandriva, les deux plus connus. Mais il y en a d'autres, hein, Tutu Linux, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment des distributions. Donc, à l'intérieur, vous avez une suite bureautique, un navigateur web, enfin, un tas de logiciels qui... Vous avez déjà toute une panoplie de logiciels prêts à être utilisés.
C'est ça. Donc, ouais. On parlait donc de système d'exploitation donc, qui est GNU Linux, qui est basé là-dessus. Ouais. Et la distribution, en fait,
c'est tout le reste,
un packaging logiciel, de logiciels libres. Hein.
C'est ça. Ah ben oui.
Évidemment. Oui. Donc, comme tu disais, on y retrouve un navigateur Internet qui est Firefox, un client de messagerie qui est Thunderbird dans la plupart des distributions.
Par exemple, ouais. Ouais, ça peut être autre chose. Mais bon.
Disons, ça, c'est les logiciels de base qui sont livrés avec la distribution, mais vous pouvez très bien choisir autre chose.
Bien sûr, télécharger, changer. Bien sûr, après, on peut changer de logiciel. Mais là, déjà, ça permet aux novices de commencer, alors soit en live CD, soit en installation en double boot avec un système déjà installé.
Alors, attends, permet... Il y en a qui ont peut-être décroché. Live CD, qu'est-ce que c'est?
Alors, live CD, donc on introduit le CD dans le lecteur CD, on redémarre et ça nous permet de démarrer sur une distribution Linux.
Donc, on choisit de démarrer sur le CD directement.
Oui, voilà.
Qui est donc un CD bootable, démarrable.
Oui, oui, oui.
Qui n'a même pas besoin du disque dur de la machine.
Non, pas besoin, juste de la mémoire vive.
Juste la machine, sans son disque dur, et qui permet donc de lancer une distribution sans l'avoir installée sur son disque dur.
Ouais, comme ça permet un premier pas, une première connaissance avec un système Linux, ça permet de tester un peu l'environnement, comment on va naviguer, utiliser certains logiciels, et puis tester les périphériques aussi.
Voilà. Alors, parce que comme on sort du monde propriétaire, donc sous Windows, où les constructeurs ont les poings et mains liés avec le système d'exploitation, puisqu'on va utiliser le matériel à travers un système d'exploitation qui est Windows, et que contractuellement, ils n'ont pas le droit, et oui, ils n'ont pas le droit de livrer des codes sources de leur pilote, c'est-à-dire ce qui va permettre donc de gérer le matériel. Et donc, on se retrouve sur une plateforme GNU Linux où, justement, les développeurs ont du mal à intégrer, des fois, du matériel parce qu'ils n'ont pas le code source des pilotes du matériel.
Voilà. Et donc, ils sont obligés souvent de repartir à zéro, de réécrire. Mais certains constructeurs, quand même, laissent certains pilotes libres. Je pense, par exemple, pour les imprimantes avec HP, il y a des tentatives de certains constructeurs de matériel et qui permettent de télécharger...
D'avoir donc son matériel utilisable sous un système propriétaire comme Windows, mais aussi sous un système libre comme GNU Linux. Et c'est une bonne chose, puisque un constructeur de matériel, son intérêt, c'est donc de construire du matériel et qu'il soit utilisé pour tous ou par tous.
Ouais, surtout par le plus grand nombre pour certains, quoi.
Donc, alors c'est vrai que business, hein, alors en termes de part de marché, effectivement, GNU Linux représente quoi ou quelle est l'évolution actuelle, hein?
Ben, je pourrais pas dire avec précision, mais je pense que ça tourne aux alentours de 3%, quelque chose comme ça.
Et c'est en augmentation, en diminution, c'est quoi la pente?
Ça dépend des secteurs, mais bon. Ouais, je sais pas. Ça monte un peu, oui. Ouais.
Alors, il faut dire qu'il y a de bons exemples, hein, dans les collectivités ou dans les administrations d'utilisation, ou en tout cas, au lieu d'acheter des licences d'utilisation de logiciels, ils préfèrent s'orienter vers du logiciel libre qui est gratuit à la base, mais pas forcément gratuit par la suite, puisque... ceux qui font vivre, hein, disons, ce qui fait vivre, hein, en tout cas, des éditeurs de logiciels libres, puisque ça existe, hein, des éditeurs de logiciels libres, c'est ce qui va autour. C'est de la formation, c'est du conseil.
De la maintenance.
De l'installation. On a des sociétés donc des SS2L qui se sont créées et qui ne vendent pas le produit, mais vous permettent donc de vous aider à l'installer, à l'intégrer, à le déployer, à vous en servir. Et c'est là, en fait, où ils apportent leur couche à eux, qui est une couche de service.
Voilà, c'est ça. Ouais, ils sont rémunérés par les services. Et donc, des fois, c'est du clé en main avec des parcs informatiques qui changent régulièrement tous les 2 ans, 3 ans. Et vous avez des techniciens qui s'occupent de la maintenance informatique. Bon, ils vous font tout, quoi. Formation, installation et tout ça, quoi.
Et donc, là, pour en revenir donc à l'install party, ça se passera où ?
Donc, c'est à la médiathèque centrale de Montpellier Agglomération Émile Zola.
Et quand ?
Le 4 décembre, de 10h à 18h, peut-être un peu plus tôt, mais normalement, le créneau officiel, c'est 10h-18h. Une première partie avec des install parties, une deuxième partie, si on a le temps, avec des conférences, bon, selon les gens intéressés par les conférences. Normalement, on devrait avoir le Wi-Fi cette année, contrairement à la dernière fois.
On verra ça. En tout cas, retenez la date, 4 décembre 2010, à la médiathèque centrale Émile Zola à Montpellier, de 10h à 18h. L'entrée est libre et gratuite. Venez avec votre machine, venez découvrir, venez discuter. Voilà, tout est dit. On va se faire une petite pause musicale avant l'agenda du libre, avec toujours en déclinaison la Free Software Song par les Gnu Stallmans, donc un groupe, hein, Gnu Stallmans en plus. C'est tout de suite sur Divergence Numérique.
Hi, we're the Gnu Stallmans, and this is the Free Software Song.
Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free.
Help me.
les Free GNU Stallman avec la version de la Free Software Song. Vous êtes toujours sur Divergence Numérique 93.9, Divergence FM 104.1, 103.3 pour ceux qui nous écoutent sur Radio Escapade. Merci à vous. On va terminer cette Divergence Numérique avec notre musique de générique et puis l'agenda du libre, agendadulibre.org. À noter que donc le 25 novembre à Montpellier, c'est Divergence Numérique 88. Tiens, bah oui, évidemment, c'est les derniers jeudis du libre aussi au Baloir. On poursuit évidemment le 26. N'oubliez pas à Sophia Antipolis, c'est les JM2L 5e édition le 26 et 27. Vous avez des installs parties un peu partout. À Castelnau, Le Lez, le 30, c'est les ateliers de Montpellier Libre, section GNU Linux. À Toulouse, le 1er décembre, une rencontre logiciel libre et présentation de Darktable, le flux de travail pour photographes, un Lightroom libre, ça parlera à certains. Le 4 décembre, c'est Terran, les ateliers libres, non c'est le 3, pardon. Donc des notions de PAO, d'édition vidéo. Et puis n'hésitez pas donc à retrouver tous les liens de l'émission sur divergence-fm.org. Et puis merci de nous écouter, merci de nous être fidèles. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Restez libres et soyez-le. Weapons of mass destruction. Uh-oh. Weapons of mass destruction. Uh-oh. Nuclear. Nuclear. Nuclear.